l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
À tous, bienvenue dans l'émission Les Échos de la solidarité internationale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Perelreusen pour UNICEF 34. Bonjour Marie-Christine. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de l'UNICEF. Mais l'UNICEF, c'est un organe très complexe et très vaste qui se manifeste à différentes instances suivant différentes échelles. Alors tout d'abord, on va parler de l'UNICEF international, qui est une agence de l'ONU créée en 1946 et qui est chargé de défendre les droits des enfants et de favoriser leur épanouissement. Alors, à cette échelle, ce sont des grandes décisions qui sont prises pour établir des programmes de développement, pour intervenir dans les pays les plus défavorisés et venir en aide aux enfants en difficulté. Alors, Marie-Christine, cette instance supranationale paraît et peut paraître pour nous, citoyens et citoyennes lambda, très éloignée et assez opaque. Alors, pourriez-vous, si vous le pouvez, nous dire comment sont organisées, ficelées ces instances, qui sont ces personnes qui travaillent à l'ONU et qui établissent ces grandes directives pour les actions de l'UNICEF? Et comment est-ce que nous, à notre échelle, on peut rejoindre et participer à cet organe supranational?
D'abord, c'est une agence de l'ONU. Donc, c'est un fonds dont l'action est dirigée vers les enfants, c'est-à-dire aux sens de l'UNICEF, c'est les moins de 18 ans, donc enfants et adolescents. L'UNICEF intervient dans 190 pays dans le monde, à la fois dans des contextes d'urgence. Alors, on pense au Liban, par exemple, où on a été une des premières instances à réagir en apportant massivement du matériel au Liban, mais il y a également les inondations au Vietnam, dont on n'a pas du tout parlé en France, ça n'a pas du tout été médiatisé. Il y a les conflits qui s'éternisent, comme le Yémen, la Syrie, l'Afghanistan, où nous sommes présents. Et puis, il va y avoir les programmes de développement où l'UNICEF intervient dans tous les domaines qui vont partir, je dirais, de la conception de l'enfant, puisqu'on travaille beaucoup aussi auprès des mamans enceintes, jusqu'à ce que le jeune devienne un adulte autonome. Donc, ça va couvrir aussi bien la santé, nutrition, accès à l'eau, vaccination, l'éducation, mais également la protection, tout ce qui va être la lutte contre le travail des enfants, l'esclavage sexuel, la traite des enfants, les enfants soldats, mais également tout ce qui est facteur d'exclusion, que ce soit par rapport au genre, que ce soit par rapport au handicap, que ce soit par rapport à l'ethnie ou la religion. Tous ces éléments-là aussi concernent l'UNICEF. Et puis, dernier point qui est très important, c'est de prendre en compte la voix des enfants et des jeunes dans leur propre destin. C'est-à-dire que très souvent, les décisions concernant les enfants et les jeunes sont prises par des adultes, mais qu'il faut donner la parole aux enfants et aux jeunes pour qu'ils puissent également exprimer ce dont ils ont besoin. Et ça fait partie aussi de leur développement vers la citoyenneté. Donc, c'est un programme qui touche à l'enfant et aux jeunes sur toutes les facettes de sa vie, et ce, à l'échelle internationale. Donc, effectivement, c'est une structure énorme, avec un budget qui avoisine les 7 milliards de dollars. Mais, effectivement, ça a l'avantage de prendre l'enfant et le jeune dans toute sa complexité, non pas simplement sur un aspect. On ne traite pas que la santé ou que la nutrition. On va traiter l'ensemble de l'environnement de ce jeune pour l'amener à devenir un adulte autonome. Et le dernier programme qui a été lancé au niveau de l'échelle internationale, c'est justement le programme Génération sans limite, qui se penche particulièrement sur les adolescents, leur accès à l'éducation secondaire et leur accès à la formation professionnelle. Alors que spontanément, on a toujours tendance à penser enfants, les enfants de moins de 10 ans. Il faut penser aussi que les adolescents sont les victimes, les plus grandes victimes en matière de violence par rapport à la population en général.
D'accord. Pour appuyer son action au service des enfants en difficulté, UNICEF a également des comités nationaux. Dans les pays plutôt industrialisés, dirons-nous, on compte parmi eux UNICEF France, dont le siège est à Paris. C'est une association de la loi 1901 qui applique les programmes définis par l'Agence internationale d'UNICEF. Ce sont des comités internationaux. Alors, ces comités sont très actifs et leurs leviers d'action sont multiples et passent notamment par la collecte de fonds pour monter des programmes. Ces comités montent des programmes qui seront appliqués et mise en place par l'action des comités bénévoles par la suite. Alors tout d'abord, ces instances ont pour mission de faire respecter et d'appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant. Pour ce faire, ils communiquent et interagissent avec de nombreux acteurs de terrain pour agir dans différents domaines, comme vous l'avez cité, multiples, la nutrition, l'éducation, l'accès à l'eau, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire, Marie-Christine, un petit peu l'intérêt pour UNICEF d'être intégré dans ces pays industrialisés pour pouvoir agir? Est-ce que finalement UNICEF intervient uniquement à l'étranger ou est-ce qu'elle tend la main également aux enfants défavorisés de France?
Alors, il faut savoir que la Convention internationale des droits de l'enfant, elle existe depuis 1989, donc c'est relativement récent, mais ça a permis justement aux comités nationaux d'avoir un point d'appui pour pouvoir vérifier que leur pays, qui avait ratifié cette convention, effectivement, appliquait cette convention pour les enfants nationalement. Donc, effectivement, ça a permis à l'UNICEF France de s'engager dans des actions de plaidoyer pour pouvoir faire respecter les droits de l'enfant en France. Et donc, comme la France ayant ratifié cette convention, elle est auditée régulièrement par le comité de l'enfance des Nations Unies en disant ben, « nous avons fait ceci, nous avons fait cela ». Et le comité national UNICEF France va publier à chaque fois un rapport alternatif pour dire « effectivement, telle chose a été menée ». Qui a conduit à une amélioration, mais va aussi pouvoir nuancer en disant « oui, la loi a été votée, mais pas les décrets d'application ». Donc, pour les enfants, rien n'a changé sur le terrain. Donc ça, c'est un point très important. Ensuite, l'UNICEF France a fait énormément d'actions de plaidoyer auprès des institutionnels, par exemple, pour ce qui est de la scolarisation des enfants des bidonvilles. Donc là, ça a été une action vraiment sur le terrain en France. L'UNICEF France a développé ce qu'on appelle les partenariats villes amis des enfants, qui permet de travailler. Alors, dans la dernière mandature, il y avait 240 villes. Les appels ont été relancés pour de nouveaux projets pour les nouvelles mandatures. Et là, ça permet de travailler très concrètement, localement, sur l'amélioration de la situation des enfants, que ce soit au niveau du bien-être, de la lutte contre les discriminations, de l'accès à un parcours éducatif de qualité, de la voix donnée aux jeunes, toujours laisser les jeunes s'exprimer. Et il y a des thématiques, par exemple, comme les rues scolaires, c'est-à-dire diminuer la pollution aux abords des rues autour des établissements scolaires, puisque la pollution est quand même un facteur très grave de santé au niveau des enfants. Ça va être d'améliorer, par exemple, l'accès à l'éducation pour des publics défavorisés. Enfin, des choses très concrètes qui vont être gérées localement entre le comité et la ville signataire. Et par exemple, si je prends l'exemple de Montpellier, la ville de Montpellier nous associe au projet de cité éducatif de la Mosson, où nous allons pouvoir apporter des éléments que nous avons en tant qu'experts UNICEF, notamment par le biais de la consultation nationale, et nous allons travailler localement là-dessus. Dans un autre registre, l'UNICEF France s'est associé beaucoup à différents collectifs pour lutter contre la rétention des mineurs dans les centres de rétention, que ce soit des enfants avec leur famille ou que ce soit des mineurs non accompagnés. Et nous, localement, par exemple, nous avons fait une demande auprès du rectorat, et c'est toujours en cours, nous travaillons avec eux, pour qu'il n'y ait pas de mineurs non accompagnés déclarés sans solution scolaire, donc qui nécessitent la mise en place de cours d'alphabétisation pour ceux qui ne sont pas en mesure de pouvoir suivre une scolarité dans les établissements qui sont proposés. Donc ça, ce sont des actions de plaidoyer. Après, on peut dire aussi qu'au niveau local, par exemple, nous avons, avec une association qui s'occupe toujours de mineurs non accompagnés, développé des cours de soutien scolaire entre nos bénévoles, souvent étudiants, et ces jeunes-là. Bien évidemment, nous les faisions l'année dernière en présentiel. là, avec la crise sanitaire, nous les faisons en visio, ce qui pose un certain nombre de problèmes. Mais voilà, nous continuons ces actions de terrain. Et l'UNICEF France, lors de sa dernière assemblée générale, a donc acté qu'elle allait s'engager sur des opérations terrain en France, ce qu'elle n'avait jamais fait, toujours par le biais de l'éducation. C'est l'axe majeur pour nous de lutter contre tout ce qui va être entrave à l'éducation des différents publics les plus fragiles.
Tout de suite, avant d'enchaîner sur justement les actions de l'UNICEF au niveau local à Montpellier, une petite pause musicale avec Marcel Khalifa et Amsterdam Andalusian Orchestra. Retour avec Marie-Christine pour UNICEF. Alors, pour continuer sur notre lancée, d'affiner davantage les actions de l'UNICEF et les différentes instances d'action, nous allons maintenant passer à l'échelle locale et parler des actions réalisées par les comités bénévoles et notamment par UNICEF 34. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter votre structure associative ? Est-ce que les bénévoles sont plutôt des personnes jeunes ? Est-ce que ce sont plutôt des personnes âgées ?
Au niveau de l'UNICEF, et je dirais pas seulement l'UNICEF 34, mais il faut voir qu'il y a à peu près la moitié des bénévoles qui ont moins de 26 ans. C'est-à-dire que nous avons beaucoup d'étudiants. Alors effectivement, dans les villes où il y a des universités ou des écoles, nous avons également beaucoup de lycéens, jeunes ambassadeurs. Donc là, ça donne, je dirais, un vivier de jeunesse qui est très important, notamment à Montpellier. Nous avons ensuite des actifs, des gens qui sont en situation professionnelle, mais qui vont dégager du temps le soir ou pendant le week-end. Typiquement, par exemple, bénévole qui s'occupe des réseaux sociaux, ça peut être une personne d'une trentaine d'années qui travaille, mais qui, parce qu'elle maîtrise très bien les outils, va pouvoir mettre à jour régulièrement tous les comptes et les réseaux sociaux à partir de chez elle. Et puis, nous avons des retraités qui sont des personnes qui ont la disponibilité en journée. Et ça, pour nous, ça peut être parfois très important. Et dernier point, ce ne sont pas des bénévoles, mais ce sont des services civiques et on y tient beaucoup. Je pense que ça vous évoque quelque chose, Sonia, le service civique.
Tout à fait.
Et voilà, donc nous avons deux services civiques auxquels je rends hommage parce que vraiment dans les conditions de la crise sanitaire où ils font des interventions scolaires en visio, où toutes les réunions se font par téléphone, je dirais, ils ont vraiment la conviction chevillée au corps pour mener à bien leur mission. Donc voilà, ça c'est un petit peu le profil de notre comité.
C'est vrai que UNICEF a la particularité de pouvoir rassembler beaucoup de jeunes bénévoles. C'est vrai que son champ d'action, les enfants, ça impulse une solidarité beaucoup plus forte et beaucoup plus grande vers ses pairs et vers les jeunes. Et c'est beau à constater. À cette échelle d'action, donc au niveau local, est-ce que ce sont plutôt des actions de type collecte de fonds ou de plaidoyer ou encore d'intervention dans des établissements scolaires qui sont le plus pertinent pour venir en aide aux enfants?
Tout, Sonia. Tout est pertinent. Je dirais la sensibilisation en milieu scolaire est importante parce que ça permet aux enfants et aux jeunes de prendre conscience des droits qu'ils ont et de prendre conscience aussi qu'il y a des enfants dans le monde dont les droits ne sont pas respectés. Donc ça, c'est important parce que ce seront les adultes et les décideurs de demain. Donc ça, c'est vital. La sensibilisation, ça débouche sur l'engagement des jeunes. Et l'engagement des jeunes, pour nous, c'est un axe prioritaire de développement. Donc les deux vont de pair. Et c'est vrai qu'après, tous ces jeunes qui ont été sensibilisés vont avoir envie de s'engager, de monter des actions. Et ce sont par exemple les jeunes qu'on va retrouver dans le tournoi de foot interlycée qui vont s'engager pour pouvoir mener une action qui va avoir un aspect de solidarité locale, donc en intégrant des mineurs non accompagnés dans les équipes, en ouvrant et en les faisant participer un peu à la vie de leur établissement. On a aussi un travail dans ce tournoi de foot sur la mixité et la place des filles. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, il peut y avoir une collecte de fonds qui va soutenir un programme à l'étranger. Donc ça, c'est ce que font nos jeunes ambassadeurs, parmi tant d'autres, parce qu'il y a un certain nombre de projets locaux, mais celui-là, on le monte au niveau de l'académie. Ensuite, on va voir les étudiants, et les étudiants, ben, ils ont, j'en avais parlé tout à l'heure, il y en a qui sont engagés dans le soutien scolaire, et on a également les étudiants de la fac de droit qui ont un projet de procès fictif autour d'un thème des droits de l'enfant, pour faire de la sensibilisation, mais sous la forme d'un événement un petit peu inédit, mais qui permettra de mettre en valeur des arguments, un peu comme dans un procès, les arguments pour, les arguments contre. Et je pense que ça va être quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, il y a la démarche de plaidoyer dont je vous ai parlé, que ce soit auprès du rectorat ou auprès des collectivités territoriales et le partenariat avec la mairie. Et la collecte de fonds, là, les ventes de Noël sont annulées, donc effectivement tous les événements sont annulés, donc effectivement c'est quelque chose qui pose problème beaucoup pour les bénévoles qui aimaient s'impliquer dans les stands et dans la sensibilisation au grand public et dans cette ambiance de collecte de fonds de Noël, mais nous redirigeons les gens vers la boutique en ligne. Donc, ce qui permet à ceux qui veulent acheter les cartes de vœux et tous les objets de pouvoir contribuer, et puis aux donateurs de continuer à soutenir nos programmes, parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé, mais il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas y penser. Par exemple, la crise de la Covid-19 a aggravé la situation des enfants et des jeunes dans le monde, sur tous les niveaux, au niveau de la santé, au niveau de la malnutrition, au niveau de la pauvreté, au niveau de l'éducation. Et donc, je ne donnerai qu'un exemple, mais pour nos programmes au Sénégal, par exemple, nos équipes de terrain ont été obligées de doubler leur budget parce qu'il a fallu mettre des citernes d'eau pour pouvoir se laver, parce qu'il a fallu soutenir les familles qui avaient perdu leur emploi, parce qu'il a fallu soutenir les enfants qui avaient perdu le repas qu'ils prenaient à la cantine, parce qu'il a fallu mettre en place des programmes éducatifs par la radio, par Internet quand c'était possible, mais par la radio. Donc tout est venu, tout aggravé. Voilà. Donc on a besoin énormément de fonds en cette année, malgré la difficulté de ne pas pouvoir faire les ventes de Noël.
Tout de suite, et avant d'enchaîner sur notre dernière partie, une seconde pause musicale avec la musique We Are the World de USA for Africa. Thank you.
comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change.
We all are part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving.
There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me.
Must lend a helping hand. We are the world. We are the children.
We are the one to make a brighter day. So let's start giving.
Wait.
Nous sommes de retour avec Marie-Christine pour notre dernière question, et c'est une question très compliquée que je vais vous poser à présent. Donc, il n'y a pas de bonne et il n'y a pas de mauvaise réponse. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faire pencher la balance au niveau international pour que tous les enfants du monde puissent grandir et s'épanouir loin de la faim, de la pauvreté et des violences ? Est-ce que la réponse réside dans une somme d'argent qui pourrait renverser ces inégalités ? Est-ce que le problème n'est-il pas systémique et au travers des ONG, ce n'est peut-être que la couche superficielle de la plaie profonde qui est pensée ?
Alors là, c'est presque une question existentielle, Sonia. Je dirais, la bêtise humaine n'ayant pas de limite, je dirais, il y a des choses qui pourraient paraître simples et évidentes et qui ne sont pas mises en œuvre. Je pense qu'il faut être réaliste. C'est vrai que l'argent permet d'atténuer, permet de corriger. Je veux dire, la vaccination, par exemple, contre la polio qui a été pratiquement éradiquée, c'est un soulagement pour énormément de parents dont les enfants pouvaient se retrouver d'abord en mourir et ensuite retrouver handicapés. Mais ça ne résoudra pas tout. Je dirais, il y a des décisions qui relèvent de la politique, il y a des décisions qui relèvent de choix gouvernementaux, et je dirais de choix économiques aussi, qu'aucune ONG ne peut résoudre à elle seule. Je dirais là, on est dans le domaine du gouvernement du monde, et c'est vrai que le gouvernement du monde ne va pas forcément dans le sens du mieux-être de l'humanité. Donc si on prend le changement climatique, tout le monde sait que le changement climatique engendre des sécheresses, donc des famines, donc des déplacements de population, des catastrophes naturelles, et pourtant on voit qu'on n'y arrive pas. On voit que les conflits se multiplient au niveau de la planète, et des conflits qui durent. Et en fait, ces conflits-là, ils s'enquistent parce qu'il y a des intérêts internationaux en jeu qui se jouent à travers des populations intermédiaires. Et donc là, on est dans du jeu purement politique, mais qui engendre une souffrance énorme. Donc, effectivement, votre réponse, il n'y a pas de réponse à votre réponse. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'on doit faire. Il y a des choses qu'on peut dire et qu'on doit dire pour ne pas laisser faire dans l'indifférence. Je pense que c'est ça, c'est-à-dire lutter contre la fatalité et l'indifférence. Parce que je vais vous dire, la Syrie, au début, tout le monde s'est mobilisé pour la Syrie, on en a parlé. Maintenant, qui parle de ce qui se passe au niveau d'Idlib ou ailleurs ? C'est sorti des radars, mais voilà, il faut qu'il y ait des gens qui continuent d'être là pour dire que non, ce n'est pas terminé, que oui, il y a des enfants qui souffrent et qu'il faut les aider. Et je pense que c'est notre rôle et qu'il faut avoir l'humilité et la lucidité de dire que c'est notre rôle de le faire, même si ça ne changera pas radicalement la situation du monde.
D'accord. Merci beaucoup pour votre réponse très lucide et très pertinente, je trouve. C'est la fin de notre émission. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot ou partager à nos auditeuresses des dates ou adresses importantes pour suivre l'actualité de l'UNICEF 34 ?
Bien, nous avons notre page Facebook, UNICEF 34, nous avons le compte Instagram, et puis j'encourage les personnes à aller aussi sur le site de l'UNICEF.fr pour suivre l'actualité, donc qui est importante parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas relayées dans la presse, mais qui touchent les enfants, qui touchent les jeunes et dont il faut avoir connaissance. Et puis ne pas oublier les cadeaux de Noël, les Happy Box qui permettent de financer des solutions nutritives, des kits d'hygiène et qui sont vraiment utiles, des couvertures. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur unicef.fr/ boutique. Ce sont des petites choses, des petites contributions, mais multipliées par des millions de Français, ça a vraiment un poids, ça a vraiment un impact.
Tout à fait. N'hésitez pas à faire de ce genre de cadeaux solidaires. Merci infiniment, Marie-Christine, d'avoir été présente avec nous.
Merci Sonia, ravie de vous avoir rencontrée.
Également. C'est la fin de notre émission. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une interview avec Enfants du Mékong. Juste avant de vous quitter, je souhaite partager une pensée avec tous nos proches et nos familles, desquelles nous sommes éloignés et séparés en ces temps difficiles, et tout particulièrement à la grand-mère de Mourane, Denise. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.